Bienvenue sur Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel et c'est l'heure de votre journal en français facile.
Jérôme Bastion.
À la une de ce vendredi 8 mai, la pandémie de Covid-19 qui a désormais fait plus de 272 000 victimes dans le monde. Et puis ses conséquences, notamment aux États-Unis où le chômage est toujours en forte augmentation. Il frôle désormais les 15% de la population active. Mais le président Trump affirme que la situation pourrait revenir à la normale dès l'an prochain. Le gouvernement irlandais a annoncé l'annulation des épreuves du baccalauréat alors que l'enseignement est à l'arrêt jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et c'est donc après une notation en contrôle continu que les lycéens se verront attribuer ou non le diplôme de fin d'année. Et puis nous irons à Hong Kong où la situation politique se tend après des mois de contestation et de blocage des institutions locales. Le bras de fer entre le camp démocrate et le camp pro-chinois s'est terminé en pugilat au Parlement.
Le journal en français facile.
Le Fonds monétaire international qui tablait mi-avril sur un recul de 3% de l'économie mondiale en 2020 a estimé vendredi que les indicateurs de certains pays pourraient détériorer cette prévision. Les données économiques de beaucoup de pays sont en dessous de notre analyse, déjà pessimiste pour 2020, dit sa directrice Kristalina Georgieva. Et en l'absence de solutions médicales, des scénarios plus défavorables pourraient malheureusement se concrétiser pour certaines économie nationale, a-t-elle dit. Le FMI tablait sur un rétablissement partiel en 2021, mais le comportement inconnu du virus obscurcit l'horizon de nos prévisions, a-t-elle encore souligné. Eh bien, l'un de ces pays dont les indicateurs se dégradent rapidement, et peut-être plus que prévu, c'est les États-Unis, où le taux de chômage grimpe encore pour atteindre un niveau historique. Il a atteint 14,7%, le taux le plus élevé depuis juin 1940. 20 500 000 emplois ont été perdus rien qu'au cours du mois d'avril, une baisse record en si peu de temps. Mais le président américain Donald Trump, qui préconise, vous le savez, la reprise de l'activité économique, ne semble pas inquiet. Il estime que l'année prochaine sera exceptionnelle, je cite, sur le plan économique. Anne Corpet.
L'économie américaine n'avait jamais perdu autant d'emplois en si peu de temps. Par comparaison, au plus fort de la crise de 2008, le chômage américain a plafonné à 10% et il s'affichait à 3,5% au mois de février dernier. Tous les secteurs de l'économie sont touchés, le tourisme et l'hôtellerie sont les plus affectés et c'est la communauté hispanique qui paye le plus lourd tribut avec un taux de chômage proche de 19%. Mais Donald Trump, qui était en direct sur Fox News au moment de la publication de ses résultats, refuse de dramatiser.
C'était pleinement attendu, ce n'est pas une surprise, même les démocrates ne me blâment pas pour cela, mais ce que je peux faire c'est remettre notre pays sur pied parce que nous sommes des battant aujourd'hui plus que jamais. Les gens retournent au travail, ce sont des guerriers.
Ces emplois seront de retour, ils seront de retour bientôt, a assuré le président. Mais selon les experts, il faudra plusieurs années avant de retrouver le plein emploi qui faisait la fierté de Donald Trump il y a un peu plus de 2 mois. Anne Corpet, Washington, RFI.
Et la situation n'est guère différente au Canada qui a enregistré en avril un taux de chômage de 13%, soit 5,2 points de plus qu'au mois de mars. Et c'est la plus forte hausse mensuelle depuis 1982. Au total, l'économie canadienne a perdu plus de 3 millions d'emplois. Et pour revenir aux États-Unis, le pays de Donald Trump a bloqué vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU une procédure devant conduire à la mise au vote d'une résolution appelant à une cessation des hostilités dans les régions en conflit, et ce pour mieux lutter contre la pandémie. Selon les affirmations de diplomates, la procédure rompue par les États-Unis devait permettre aux deux auteurs de la résolution, la Tunisie et la France, de demander une mise au vote du texte qui est âprement négocié depuis le mois de mars. La pandémie du coronavirus a donc fait à ce jour quelques 272 000 morts dans le monde. L'Italie a passé la barre des 30 000 victimes, en hausse de 243 décès sur 24 heures. Plus de 31 000 personnes sont décédées au Royaume-Uni. C'est le pays le plus touché en Europe. désormais. Et puis, l'accalmie ne s'annonce toujours pas en Russie. Pour le 6e jour consécutif, le pays enregistre plus de 10 000 nouvelles infections journalières, dont plus de la moitié à Moscou. Le ministre irlandais de l'Éducation a annoncé ce vendredi l'annulation des épreuves écrites du baccalauréat, qui permet, vous le savez, de passer du lycée à l'université. L'examen, qui se tient traditionnellement début juin, a d'abord été reporté à la fin du mois de juin, alors que tous les établissements scolaires resteront fermés jusqu'en septembre. Les lycéens, eux, réclamaient un système en contrôle continu. Eh bien, ils sont aujourd'hui soulagés, Emeline Vain.
Les trois quarts des terminales souhaitaient l'annulation des écrits. Pour Sophie, lycéenne de Dublin, le soulagement est immense.
Ça m'enlève un poids. Ça fait du bien d'avoir des clarifications. On nous avait dit que les examens se tiendraient, mais on n'avait pas d'emploi du temps. Tous les jours, je me demandais, est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va mettre autre chose en place? Au fond, je pense que c'est la meilleure décision qu'ils pouvaient prendre. C'est juste pour tout le monde et c'est au nom de la santé de tout le monde.
Les élèves seront notés par leurs professeurs qui tenteront de déterminer quels scores ils auraient décroché s'ils avaient passé l'écrit. Une autre Sophie, en terminale dans le sud du pays, approuve la décision, mais elle garde quelques inquiétudes.
C'est inédit comme système, alors forcément, ça fait peur. Je crains de ne pas décrocher mon premier vœu pour le supérieur et que les profs soient un peu subjectifs. Bien sûr, j'ai confiance en eux, mais ça m'inquiète quand même. Et puis, il y a certains cours pour lesquels je n'ai peut-être pas fait aussi bien ou je ne me suis pas autant donné que je ne l'aurais fait pour l'écrit. Ça va peut-être tirer mes notes vers le bas.
Les résultats de ce baccalauréat seront connus à la fin de l'été. Emeline Van Dublin, RFI.
RFI, il est quasiment 4h07 à Hong Kong, où les signes de mécontentement et de crise politique n'ont pas attendu que la vie normale ait eu le temps de reprendre pour se manifester. Alors que ce vendredi soir, les bars devaient rouvrir, même si Hong Kong n'a jamais été en confinement, l'après-midi a été marqué par des altercations qui ont mal tourné au sein même du parlement local, qu'on appelle le LegCo. Les explications avec notre correspondante sur place, Florence Deschamps.
Les députés hongkongais se sont bel et bien battus. Un député de l'opposition a été évacué du Parlement sur une civière. Un autre a indiqué qu'il avait dû être traité aux urgences d'un hôpital public proche après avoir été traîné au sol sur plusieurs mètres. Certes, tout le monde s'attendait à ce que la réunion du comité de la Chambre qui devait se tenir vendredi après-midi soit tendue, car cela fait 6 mois que le camp pro-démocratie, l'opposition donc à Hong Kong, bloque l'activité du comité de la Chambre. C'est la seule façon qu'elle a d'empêcher que certains textes soient présentés au Parlement. Mais le groupe de la majorité en a eu assez et a décidé de reprendre le siège du président de force. Cela a abouti à un quasi-pugilat. Finalement, une fois que tous les députés de l'opposition avaient été évacués, le comité de la Chambre s'est réuni, cette fois sous la présidence de Starry Lee, la chef du plus large parti pro-Pékin, qui devrait normalement présider ce comité, mais qui, pour des raisons de procédure, n'a toujours pas été élu. L'opposition estime qu'il s'agit d'un grave abus de pouvoir. Des appels à des rassemblements illégaux ont été lancés pour la soirée de vendredi à travers Hong Kong. Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Et puis en Israël, Benjamin Netanyahou, finalement chargé de former le prochain gouvernement, il en a officiellement reçu le mandat par le président Reuven Rivlin. Il devrait désormais composer une équipe avec Benny Gantz, son rival, et le gouvernement pourrait être présenté mercredi.
C'est à la demande de 72 députés, soit 11 de plus que la majorité absolue, que le président Reuven Rivlin a chargé Benjamin Netanyahou de former le prochain gouvernement. Le premier ministre sortant a perdu le soutien de Yamina, la coalition de la droite nationaliste religieuse. Mais il a gagné celui de son ancien principal rival, Benny Gantz. C'est avec lui, conformément à l'accord de coalition qu'ils ont signé, qu'il devrait désormais gouverner, à moins d'un revirement de la part de Benjamin Netanyahou, souligne Yohanan Plesner, président de l'Institut israélien de la démocratie.
Toutes les cartes sont entre ses mains. C'est à Netanyahou de décider s'il applique l'accord. C'est un accord politique qui n'est pas légalement contraignant. Donc il peut décider de ne pas présenter ce nouveau gouvernement à la Knesset. Ce serait une surprise, mais je suis certain que Netanyahou va commander de nouveaux sondages et faire de nouveaux calculs politiques.
Le Likoud et Bleu Blanc ont toutefois annoncé une date pour la prestation de serment de ce gouvernement. Ce devrait être mercredi, mais la crise politique n'en sera peut-être pas encore terminée. Pour autant, les réformes nécessaires pour la création d'un gouvernement à deux têtes sont contestées par un parti de gauche et une organisation anticorruption devant la Cour suprême. Guilhem Deltay, Jérusalem, RFI.
RFI, 22h10.
Journée spéciale.